おかしい、おかしい。おかしい。
Bonsoir et bienvenue à cette émission. Nous sommes le lundi 22 décembre 2008. Spécial dialogue entre Congolais ce soir avec Azarias Rubewa Manyoa, ancien vice-président de la République en charge de la Commission politique défense et sécurité et président du FCD. Avec lui, nous analysons la crise à l'est du pays et la marche actuelle des institutions.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Dans la première partie de cette émission, nous analyserons la crise à l'est du pays, les moyens d'en sortir. Les négociations de Nairobi entre les délégués du gouvernement et ceux du CNDP se sont clôturées pendant le week-end à Nairobi au Kenya pour reprendre le 7 janvier prochain. Pourtant, des affrontements ont été signalés une fois de plus ce matin à Niangui, à environ 140 km au nord-ouest de Goma. Ces combats opposent le CNDP au groupe Mai Mai Mongol, où le porte-parole des Mai Mai Mongol, leurs positions ont été attaquées depuis vendredi dernier par le CNDP dans ce secteur et les combats se sont poursuivis tout ce week-end. Le CNDP de son côté affirme qu'il s'agit plutôt des opérations de sécurité menées par sa police militaire contre les petits groupes d'hommes armés pilleurs de bétail. Tout se détaille avec notre confrère Bernardin Niangui.
Jusqu'à ce lundi matin, les affrontements se poursuivaient encore dans le secteur entre Nyangé et Kibouye, sur la serrotie Mwesopinga, affirme le porte-parole du groupe Mai Mai Mongol. M. Félicien Miganda précise que c'est depuis vendredi dernier que la base des Mai Mai Mongol à Nyangé a été attaquée par les combattants du CNDP. Pour lui, ils avaient réussi à repousser le CNDP jusqu'à Kibouye en passant par Bibwe, plus au sud. Il affirme par ailleurs que ces affrontements ont provoqué des mouvements de population de ces villages. Les uns vers Pinga au nord, les autres vers Nyanzale. Mais le CNDP dit pour sa part qu'il ne s'agit pas d'affrontement. Selon Bertrand Bissimo, pour ses paroles du mouvement, il s'agit plutôt d'opérations de la police militaire du CNDP, opérations visant à dissuader quelques combattants Maïmaï qui veulent voler du bétail dans le secteur sous leur contrôle. Les responsables de la police nationale congolaise du district de Masisi disent n'avoir pas encore d'informations sur ces affrontements, dont aucun bilan n'est encore disponible pour l'instant. Goma Bernardin. Radio Capi.
Merci beaucoup Bernardin Niangui, Monsieur Azarias Rubewa, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Je rappelle que vous avez été vice-président de la République en charge de la commission politique, défense et sécurité pendant la transition et vous êtes actuellement président du RCD. Comment vous allez?
Tout d'abord, je profite de ce micro pour souhaiter à tous vos auditeurs tous mes meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An. Sinon, par rapport à votre question, je me porte très bien.
Mais ça fait longtemps qu'on ne vous entend plus.
Bien, il y a un temps pour se faire entendre, il y a un temps pour se taire. Aujourd'hui, c'est le temps de se faire entendre.
Merci beaucoup. Alors, votre réalisation de suivre ce reportage de notre confrère Bernardin Niangui, en même temps se déroule, les négociations sont déjà lancées, et pourtant, sur le terrain, il semble marcher. Il y a encore des affrontements. Votre réaction?
Disons, je pense que de coutume, il arrive que lorsqu'il y a des négociations, il y ait également des affrontements. C'est pas nouveau, mais je pense qu'il faut en même temps condamner cela. À partir du moment où les partis sont finalement tombés d'accord sur la logique des négociations, ce que nous avions réclamé et conseillé depuis longtemps sans être suivi. Maintenant que la voie a été choisie, je crois qu'effectivement, toutes les parties devraient s'abstenir de faire la guerre et de garder la cessation des hostilités. Maintenant, nous avons suivi les réactions des uns des autres. Il faut des vérifications pour savoir si c'est, si vous voulez, des simples incidents ou c'est des véritables affrontements. Je crois que la MONUC devrait donner des éléments. Au cas où ce serait de véritables affrontements, ça va de soi qu'il faut condamner cela et appeler toutes les parties à respecter la paix.
Mais est-ce que c'est un bon signal parce que certains analystes, enfin ceux qui sont pessimistes, hein, estiment que c'est quand même des signaux assez négatifs.
Disons, pour avoir fait une partie de mon temps dans les mouvements de libération, je pense que ceci est compréhensible par moment. Je veux dire, ça arrive. Mais en même temps, c'est l'occasion d'user de beaucoup de pression pour faire taire cela définitivement.
Voilà, concertation gouvernement CNDP à Nairobi au Kenya. Seule la partie gouvernementale a signé ce samedi à Nairobi au Kenya des documents sur la prolongation de la cessation des hostilités. Un document présenté par la facilitation, le CNDP indique ne pas avoir signé parce qu'un document de cessation des hostilités ne devrait pas leur être imposé par la facilitation, mais plutôt discuté. Écoutez Bertrand Bissimoi, porte-parole du CNDP, au micro de notre confrère Nazaire Nkoko.
D'abord, nous estimons que le texte de la médiation, ce n'est qu'une proposition, ce n'est pas une imposition, que les partis doivent l'apprécier et les partis ont la latitude de le modifier dans le sens à pouvoir respecter la réalité de chacun. Et nous avons trouvé que dans le texte que nous a proposé la médiation, qui était plus une déclaration de continuation d'observation des cessations d'hostilité, nous avions porté à l'attention de la médiation nos inquiétudes que les FRDC sur le terrain étaient en train d'évoluer vers nos positions et que de ce fait, avant de faire toute déclaration de ces gens et de signer tout acte, nous voulions qu'ils puissent d'abord condamner cette nouvelle conquête des territoires par les FRDC avec les FDLR et de leur imprimer l'ordre de pouvoir reculer dans leurs anciennes positions.
Notez que le but de la signature de cette prolongation de la cessation des hostilités est de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et de poursuivre les négociations dans un climat apaisé. Pour sa part, le vice-président de la délégation congolaise dans ses concertations de Nairobi a estimé que sa délégation a entrepris ses pourparlers avec une ouverture d'esprit. Il a invité, par ailleurs, le CNDP à signer la cessation conjointe des hostilités. L'abbé Apollinaire Malmalou était toujours interrogé par notre confrère qui est sur place, son envoyé spécial Nazaire Nkoko.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo, la délégation conduite par le ministre de la coopération internationale et régionale, est venu à Nairobi dans un esprit d'ouverture pour la paix, en espérant que ce fête de Noël et de nouvel an auraient pu se passer dans un esprit de sérénité et que les populations sinistrées auraient pu espérer des lendemains meilleurs. C'est dans cet état d'esprit que la délégation du gouvernement a travaillé dans un esprit constructif à l'élaboration de trois documents qui ont été soumis. Et nous pensons que la délégation gouvernementale a fait sa part de chemin pour la paix et nous invitons le CNDP à signer le cessez-le-feu.
Monsieur Zarias Robéroy, est-ce que vous comprenez l'attitude du CNDP alors que les accusations du CNDP sur l'occupation par les FRDC de certains territoires que eux auraient dégagés a été vérifiée, mais cela n'a pas été confirmé, cette occupation par les FRDC?
Disons, je ne suis pas négociateur ni si vous voulez impliquer dans cette négociation, mais je suis négociateur principal pendant les négociations de Sun City. Je sais que les parties, lorsqu'elles négocient, si vous voulez, utilisent des arguments pour asseoir la défense de leurs intérêts. Nous avons eu des accords comme l'accord de Lusaka qui ont été signés par une partie, des participants aux négociations. Une autre partie est venue signer beaucoup plus tard. Ça, c'était le SCD qui n'avait pas signé. Lorsque nous sommes arrivés à Sun City, nous avons eu l'actuel PPRD. En fait, c'était la composante du gouvernement somala et le MLC et d'autres forces politiques qui ont signé l'accord dit de cascade à SL, l'UDPS, le SCD et d'autres n'avaient pas signé. Donc je pense que c'est dans la logique des négociations que ce genre de choses arrivent. Ce que je voudrais dire d'abord à ce sujet, c'est de féliciter le gouvernement qui a signé, si vous voulez, ce texte sur la cessation des hostilités. C'est une bonne preuve que le gouvernement est dans une bonne direction. Je me rappelle cependant qu'il y a quelque temps, le CNDP avait pris la décision unilatérale également de cesser les feux ou de cesser les hostilités. C'était aussi une bonne initiative que je dois féliciter. Maintenant, ce qui importe n'est pas l'incident de la non-signature. Pour moi, comme négociateur, du moins dans le cadre de mon expérience, ce qui importe, c'est qu'il se soit convenu de se retrouver la fois prochaine, au mois de janvier. Alors, à partir du moment où le dialogue est encore possible et qu'il est permis, et quelles que soient les raisons qui ont justifié, si vous voulez, la réserve des uns et des autres qui est courant dans la négociation, dès lors qu'il y a une entente de se retrouver, je pense qu'on peut bâtir sur ça et espérer de la même manière.
Est-ce que vous êtes optimiste quant à ces négociations? Parce que le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole, Lambert Mende, a accusé dernièrement le CNDP d'inventer de nouvelles exigences.
Disons, je ne peux être qu'optimiste, sinon quelle autre voie qui nous reste? Mon seul problème, c'est que le gouvernement a compris ce langage de négociation beaucoup plus tard.
Il y avait déjà le programme Amani que le CNDP a refusé.
J'ai participé au dialogue de Goma, donc je sais de quoi je parle. On se serait pris à temps lorsque les bonnes voies, y compris la mienne, insistaient sur les discussions sérieuses, les négociations. Je veux dire, même avant Goma, après Goma, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que jusqu'au mois d'août, la situation était calme et subitement la situation s'est détériorée?
Et pourquoi quelle année d'après?
Mon explication, c'est que il y a eu absence de volonté politique ferme. Il y a eu de deux côtés. Pourquoi? Toutes les résolutions que nous avons prises à Goma ont attendu jusqu'au mois d'août. La seule qui a failli être exécutée, ce fut, si vous voulez, l'amnistie, et même alors, le Sénat n'est pas allé loin. Mais que ce soit les obligations de la chef de CNDP, c'est-à-dire la démobilisation, l'intégration de l'armée, que ce soit les obligations de la chef du gouvernement, c'est-à-dire le retour des réfugiés, le désarmement des FDLR, la question d'amnistie, aucune n'a été réglée. Et donc, non seulement qu'il y a eu absence de volonté politique, en tout cas insuffisance, mais également, ce qu'il y a eu, c'est que les deux partis ont travaillé d'arrache-pied sur le plan B. Les partis en conflit, les principales en tout cas, ont toujours voulu chacun une victoire militaire sur l'autre. Et donc,
vous pensez que la solution n'est pas militaire?
La situation ne peut pas être militaire. Elle doit absolument être, si vous voulez, enlevée des mémoires des gens. C'est parce que chaque parti a travaillé sur le plan B, c'est-à-dire le plan militaire, qu'aucune des parties n'a exécuté ses obligations, et ce qui devait arriver est arrivé, en effet.
Monsieur Darius Roubéroy, donc je rappelle à nos auditeurs qu'aujourd'hui c'est un spécial dialogue entre Congolais avec Darius Roubéroy Manioa, qui est ancien vice-président de la République en charge de la Commission politique défense et sécurité, mais vous êtes également président du RCD. Avec lui, nous analysons la crise à l'est du pays dans la première partie et la marche actuelle des institutions. Nous aborderons ce thème dans la seconde partie. Mais beaucoup d'auditeurs ont aussi réagi à ce thème, qui, j'imagine, intéresse tout le pays. Je vous laisse donc suivre cet auditeur de Béni en Nord-Kivu qui vous pose sa question.
Moi, c'est Didier Kousofi. Je vous appelle de Béni dans la province du Nord-Kivu. Je voudrais simplement savoir quel reproche M. Roubéro peut donner au CNDP ou bien au gouvernement, ou bien soit quelle est leur position en tant que RCD, puisque c'est toujours dans l'Est et puis précisément à Goma, leur ancien quartier général, que se commence toujours les troubles à l'Est du Congo.
Monsieur Darien, trop bien.
Voilà. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Le reproche au CNDP et au gouvernement, c'est qu'il leur a fallu 8 mois après la signature de l'acte d'engagement de Goma, si vous voulez, pour constater qu'aucune des parties ne voulait en effet exécuter les obligations. Donc, à partir du moment un contrat ou un agrément, un accord peut être le mieux conçu de la manière, dans la forme, dans le fond, mais c'est la bonne foi qui compte. On n'a pas senti jusqu'au mois d'août la bonne foi et ce qui devait arriver arriva comme je le dis tout à l'heure. Donc, si le gouvernement avait travaillé sur le désarmement des FDLR, si le gouvernement avait travaillé sur le retour des réfugiés, si le gouvernement avait finalisé la question, si vous voulez, de l'amnistie, si le CNDP avait travaillé sur la question de la démobilisation, la question de l'intégration de l'armée, alors on aurait connu des avancées qui auraient empêché la reprise de la guerre.
Dans les reproches que vous les faites à toutes les deux parties, le CNDP et le gouvernement.
Absolument, ils n'ont pas exécuté le contrat de Goma.
Voilà. Il y a aussi Barnabé de Kipusi au Katanga qui voudrait connaître la raison pour laquelle vous avez été écarté de la scène politique. Et pourtant, d'après lui, vous êtes sage. Et puis, David Bwanga de Manono au Katanga, qui se dit enchanté ici, Maître Azarias Fouberoua, peut dire clairement au peuple congolais les efforts qu'il a déjà fournis pour restaurer la paix à l'est de la RDC.
Disons, je reçois favorablement les compliments du premier intervenant. J'ai participé aux élections, je ne les ai pas gagnées, donc je ne suis pas aux affaires, mais est-il que nous sommes en démocratie, étant donné que je suis démocrate et moi-même et mon parti, nous participons aux institutions au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, et nous avons des députés provinciaux. Nous nous préparons, si vous voulez, pour assumer l'alternance, parce que le peuple congolais voit évidemment que le gouvernement et le pouvoir échouent au jour le jour. Et donc, nous sommes dans le cas, effectivement, pour venir le moment opportun. Maintenant, la question de ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà fait pour l'auditeur de Manono, c'est que j'ai eu... si vous voulez, à intervenir dans les médias comme aujourd'hui, j'ai eu à prévenir des événements.
Mais pendant que ça tirait à Goma et ailleurs, on ne vous a pas entendu,
non,
c'était quoi la peur
le...
Vous vouliez être, vous vouliez peut-être qu'on vous réponse
si j'avais eu peur, j'aurais quitté Kinshasa. Le problème, c'est que l'habitude du pouvoir que nous avons, c'est de recourir derrière des prétextes. Il suffit d'intervenir au moment où ils sont à la recherche de ces prétextes, pour vous responsabiliser de tout le monde d'Israël. Donc, il fallait laisser les événements donner des leçons aux uns aux autres. Et je pense que cela a été une bonne pratique. J'ai été l'un des coordonnateurs de la conférence de Goma. J'ai appris fondamentalement les résolutions qui sont sorties.
Et
je pense que les peuples du Kivu ont fait un pas en avant en termes de réconciliation. Ce sont des acquis. Maintenant, reste que le pouvoir ne gaspille pas les acquis au temps de la transition, parce qu'il y en a et nombreux, et les acquis de la conférence de Goma.
Mais est-ce que vous n'avez rien à reprocher au programme Amani, par exemple?
Le programme Amani, je préfère parler plus de l'acte d'engagement de Goma.
C'est un peu le langage du CNDP.
Non,
hein,
c'est pas un problème de la.
Les documents qui a été signé, monsieur, programme Amani.
Je suis légaliste. Le document qui a été négocié et signé s'appelle acte d'engagement. Maintenant, ce qui a été utilisé comme parapluie, parce que ça devait impliquer les aspects de développement, ça devait impliquer la question de route des dessertes agricoles et que sais-je encore, ça s'appelle, si vous voulez, programme Amani. Mon problème n'est pas le concept de programme Amani, du reste, Amani c'est la paix. Mon problème, c'est que le programme en soi ne suffisait pas sans la volonté politique. Je l'ai dit avant. On peut avoir le meilleur programme. Ce n'est pas parce qu'il porte le nom d'Amani qu'il suffisait d'être là. Voyez la lourdeur avec laquelle se trouve. Voyez même le financement. Finalement, autant on a gaspillé des millions à Goma, autant après, il n'y a pas eu un seul sou.
Et finalement, les négociateurs de Nairobi, ce n'est pas une autre conférence de Goma bis ou bien peut-être une autre conférence.
C'est vous qui l'avez dit.
Sans Sikibi. Le CNDP réclamait dernièrement que dans ces négociations puissent être associés les présidents des deux chambres du Parlement, la majorité et l'opposition. Votre réaction par rapport à...
Les revendications de CNDP, je ne peux pas les assumer. Les revendications du gouvernement, je ne peux pas les assumer. Mais simplement, ce que je dis d'expérience, je le dis à la fois des négociateurs et de quelqu'un qui s'est occupé des questions sécuritaires et politiques pendant 3 ans et demi dans ce pays et dans l'histoire récente, c'est que après les événements de Goma, on a aussi trop traîné pour aller à Nairobi. Pourquoi? Voyez toutes ces mamans, tous ces enfants, tous ces vieux, avec des images à travers les chaînes de télévision du monde. On aurait pu ouvrir le dialogue bien avant, que les souffrances seraient, si vous voulez, estompées ou tout au moins diminuées. Donc, nous sommes dans quelle situation aujourd'hui? Nous sommes dans la situation de Amani plus. C'est exactement ça. Nous sommes dans conférence de Goma, accord plus quelque chose. Et ceci, il n'a pas fallu attendre autant de temps. Donc, je crois qu'il y a des questions que le gouvernement a abordées avec gêne. Je peux m'imaginer qu'il se disait, je perds la face de plan militaire, je ne peux pas encore la perdre en acceptant les négociations en allant à Nairobi, parce que le CNDP exigeait qu'ils aillent en dehors du pays. Mais ce qui importe, c'est quoi au finish pour un gouvernement? C'est la paix et la sécurité pour son peuple.
Monsieur Zarias Foubéroi, il y a que répondez-vous à Joseph Kikuni de Goma en Nord-Kivu qui aimerait connaître les points de divergence et de convergence entre votre mouvement, le RCD et le CNDP.
Le point de divergence fondamental, c'est que le RCD a eu son temps de faire la guerre. Il a tourné la page. J'arrivais à Kinshasa en avril 2003, que j'ai déclaré à l'aéroport, je déclare la fin de la guerre. J'ai dit également à dire que nous étions des procureurs de la paix. Nous sommes restés constants. Alors, à partir du moment où nous avons construit la démocratie, ici dans ce pays, on ne peut pas parler de la démocratie sans voir la part du RCD. Les solutions militaires, ce n'est plus l'affaire du RCD. À la rigueur, je pense que à partir du moment où nous avons tenu des élections, les solutions doivent être trouvées dans le cadre démocratique.
Et pourtant, certains analystes...
Non, vous n'avez pas à me joindre de réponse. Je suis à répondre. Le CNDP a l'approche militaire pour régler le problème. Nous pouvons avoir la même analyse de la situation. En effet, quand vous lisez des thèmes de leadership, d'absence de leadership, d'absence de bonne gouvernance et d'autres questions, y compris celles de protection des minorités,
vous
trouvez ça dans le langage de l'opposition de manière générale, je dirais. Mais la différence, c'est que nous sommes, au niveau de l'opposition démocratique, le CNDP est encore au niveau de l'opposition armée. Donc c'est une différence énorme.
Que dites-vous à ces analystes politiques qui estiment que le général déchu Laurent Kunda est un héritage de la rébellion du RPD Goma que vous avez dirigé entre 98 et 2003?
Qu'est-ce qu'ils appellent héritage?
Il a fait partie de votre mouvement de rébellion. Et aujourd'hui, c'est un héritage que vous laissez au Congolais.
Vous savez que le président Joseph Kabila a fait partie de la rébellion de la FDL. De quoi vous parlez, monsieur? Voilà. C'est pas parce que Laurent Kunda, nous assumons sa présence au sein de notre armée, l'armée qui est l'ANC, il a été commandant des brigades au Kasai, il a été commandant des brigades à Kisangani, au début de la transition, je l'ai proposé personnellement pour être le commandant des régions du Nord Kivu, j'assume tout cela. Maintenant, les faits et causes, si vous voulez, son comportement actuel, n'est pas, le RCD n'est pas son répondant. Vous êtes même, je dirais, restrictif. D'autres vont dire non, c'est pas tout ce qu'on a fait. Le RCD doit répondre, sa communauté doit répondre. Non, le CNDP est constitué à la fois des personnes qui viennent de partis politiques différents, y compris de l'ordre politique actuel, ainsi que, si vous voulez, des communautés différentes.
Monsieur le vice-président, je rappelle que nous recevons Monsieur Azarias Roubéroi, qui est l'ancien vice-président de la République en charge de la commission politique défense et sécurité. Avec lui, dans ce spécial dialogue entre Congolais, nous analysons la crise à l'est du pays et les possibilités d'en sortir et la marche actuelle des institutions. Beaucoup d'auditeurs, Monsieur Azarias Roubéroi, ont réagi. Je vous laisse donc suivre aussi cet auditeur de Béni au Nord qui vous pose aussi sa question.
Oui, je suis Joseph Wankamba, depuis Kananga au Kasai occidental. Maître Azarias Roubéroi, avez-vous une responsabilité dans ce qui se passe actuellement à l'Est? Et puis, Kunda, en tant que votre ancien collaborateur, pourriez-vous l'interpeller au calme et à la paix pour la sécurisation de l'Est?
C'est plutôt Manchimba de Kananga.
Bien voilà, je n'ai aucune responsabilité dans ce qui se passe à l'Est aujourd'hui. Comme je le dis, le SCD s'est métamorphosé le moment venu, si vous voulez, à un parti politique. Donc, nous ne sommes pas répondants des actes actuels, ni des CNDP, ni du gouvernement d'ailleurs. Nkunda l'appelait au calme ou à la paix, je le fais à partir de cette émission, je l'ai déjà fait dans le passé, mais je le fais également à l'égard du gouvernement et du président. Je pense que nous devons construire la paix dans ce pays. Je crois qu'il y a moyen de dialoguer et de trouver des solutions durables pour les maux qui continuent à ranger la société congolaise. Donc l'appel à la paix, au calme, à la tranquillité, ce n'est pas à un seul des belligérants, c'est à tous les belligérants.
Je vous laisse aussi suivre la préoccupation ou l'opinion des auditeurs de Kinshasa, et puis nous reviendrons ensuite dans ce studio.
Oui, c'est Maître Florent Kabongo, je suis avocat, j'appelle de Kinshasa. Je voulais saluer la clairvoyance de Maître Darius Rodewa, qui a toujours pris position à temps et après une analyse froide de la situation. Je me rappelle bien que lorsque les hostilités avaient commencé, il avait préconisé une résolution pacifique de ces conflits par le dialogue et on l'avait pas suivi. Je constate que après avoir préconisé cette résolution par la voie pacifique, il y a eu la conférence de Goma. Malheureusement, après la conférence de Goma, les hostilités ont commencé. Il a préconisé la même solution. Et aujourd'hui, je vois qu'on le suit. Je pense qu'il serait honnête de reconnaître que nous avons quand même un visionnaire. C'est lui qui dit les choses avant et que désormais, il serait mieux qu'on puisse l'écouter et le suivre pour éviter les casses.
Là, on vous jette carrément des fleurs, hein, sans mettre...
Monsieur, je n'ai pas cru des adversaires. J'ai aussi des gens qui reconnaissent effectivement le rôle si simple soit-il que nous jouons. Et je pense effectivement que si nous avions été écoutés toutes les fois que nous avons pris la parole, rappelez-vous l'appel à l'évaluation pendant la transition, en fait ce qui est arrivé ne serait pas arrivé, parce que tout ceci c'est exactement la conséquence de tas de problèmes non résolus, des problèmes de réconciliation. Voyez ce rapport de Ménaratouch, ça vous traîne là des blessures, des problèmes qui n'ont pas été réglés.
Mais en une minute avant de passer à la deuxième partie de cette émission, vous avez quand même été vice-président de la République en charge d'une commission importante politique, défense et sécurité. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent de l'intégration de l'armée nationale qui n'a pas réussi. Mais qu'est-ce que vous avez fait de votre commission? On peut aussi vous imputer la paternité de ce qui arrive aujourd'hui à notre
armée. Je devais être à la barre un jour sur cette question de l'intégration de l'armée. Je pense que je gagnerais la cause.
Pourquoi?
Nous sommes en 2003. Le pays est complètement divisé. Je parlais tout à l'heure des acquis de la transition sur lesquels le pouvoir marche aujourd'hui, ou alors la rébellion marche. Ce pays était divisé pendant 5 ans. Nous étions amenés, notamment dans notre commission, les membres de ma commission qui m'écoutent le témoigneraient, à travailler sur la réunification du pays. Ce n'était pas un vrai mot. Quitter l'ouest pour l'est, le nord pour le sud, en passant par le centre. Nous étions amenés de toutes les armées qui existaient, toutes les polices qui existaient, toutes les administrations qui existaient, toutes les immigrations qui existaient, je dirais, et les services de sécurité de les réunifier.
Mais ce pari a été gagné. Mais certains ont gardé leurs armes, comme c'est votre mouvement,
ce pari a été gagné. Je pense que si vous répétez cela, vous faites de la diffamation. Le RCD a été le mouvement parmi les premiers qui ont remis les armes. C'est connu, c'est répertorié. Maintenant, une chose, c'est d'avoir travaillé sur l'intégration de l'armée. Télé, avant de quitter, j'ai cédé au pouvoir actuel 15 brigades intégrées, ma commission, le gouvernement de transition, 15 brigades intégrées.
Mais qui ne font pas le point sur le terrain devant le CNDP.
Dites-moi aujourd'hui, combien d'autres brigades ont continué? Non seulement que les brigades n'ont plus continué dans leur intégration, mais également même celles que nous avons laissées ont été mal entretenues. Vous osez me poser cette question?
C'est ça la raison de leur échec durant le CNDP?
Lorsque, il y a plusieurs raisons, soyez patient monsieur. Lorsque les militaires ne mangent pas, est-ce un vice-président ou une commission d'il y a 3-4 ans
qui doit répondre. Il y a deux ans qui doit répondre. Lorsque les militaires font trois jours sans manger, lorsqu'ils n'ont pas à boire, lorsqu'ils ne sont pas soutenus, lorsque leurs, si vous voulez, sont détournés impunément par des responsables de l'armée, dois-je répondre rétroactivement de leur comportement?
Est-ce que vous ne vous attribuez pas le bon rôle, maintenant que vous êtes en dehors des institutions?
Non, absolument pas. Vous savez bien mon langage, même au sein des institutions. Je suis celui qui insistait le plus sur des antivaleurs, je dirais, sur la corruption, ainsi de suite. Donc, le problème est celui-ci. Nous devons savoir... Nous devons savoir entretenir l'armée. L'armée s'entretient. Les effectifs ne suffisent pas. Et d'ailleurs, pour répondre à certaines questions entre les lignes, si l'armée congolaise du gouvernement tient encore au sein de paix à certains endroits, vous le savez très bien, c'est grâce aux éléments issus du RCD. Si vous ne le savez pas, informez-vous.
Ça, ça vous engage plus.
Bien sûr.
Voilà. Spécial dialogue entre Congolais ce soir avec Azarias Roubéroua Manua, ancien vice-président de la République pendant la transition en charge de la Commission politique défense et sécurité, et actuellement il est président du RCD. Quel est son regard sur la marche actuelle des institutions? C'est la seconde partie de cette émission. D'abord, le rappel de nos contacts avant de poursuivre notre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Voilà, Maître Azarias Roubéroua, quel est le regard que vous jetez sur la marche actuelle des institutions? Parce que ça fait déjà deux ans depuis que les élections ont eu lieu dans ce pays.
Voilà. Le regard que je porte sur les institutions actuelles, c'est que il y a des choses qui vont et des choses qui ne vont pas du tout. De manière claire, nous avons, pourquoi pas encore, la situation de guerre à l'Est. Le problème dans un pays ou pour un pouvoir n'est pas la survenance des problèmes. Le problème, il y en aura toujours d'ailleurs dans tous les États. Le problème, c'est la capacité de régler les problèmes. Ici, c'est la sécurité. Par là, c'est des questions humanitaires et parlons donc de l'Est. Au-delà de ça, nous avons la situation sociale qui est explosive. On a essayé de les contenir plusieurs fois. C'est des médecins, c'est des infirmiers, c'est des enseignants et bien d'autres. Nous avons la situation humanitaire qui est catastrophique, presque jamais sans précédent. Mais nous avons également d'autres maux qui rongent la gestion actuelle, notamment la corruption. Aujourd'hui, nous sommes l'un des pays les plus corrompus au monde. On dirait que chaque jour qui passe nous range parmi les premiers pays les plus corrompus.
Mais certains peuvent vous demander qu'est-ce que vous aviez fait pour lutter contre la corruption lorsque vous étiez vice-président chargé de la commission politique.
Je pense que vous ferez une émission sur la transition. Alors, je vous dirai, vous étiez en train de me poser la question sur la situation actuelle et ayez un peu de tolérance.
Mais c'est de l'histoire. Hein.
J'en viens. Je vous dirai ce que je fais. C'est en effet sous mon initiative, que des ministres corrompus qui avaient pris l'argent de la SNEL, payé, si vous voulez, par le gouvernement de Brazzaville, que des ministres ont quitté le gouvernement.
Mais ils ne sont jamais allés en prison. Hein.
Ça,
vous n'êtes pas arrivé au bout, peut-être, de votre initiative, qui est peut-être louée dans ce pays.
Le problème est qu'il y a toujours, oui, vous le savez très bien, un gouvernement parallèle. C'était valable pendant la transition, c'est valable maintenant. Il fallait plutôt dire, il faut juger par rapport à ce que l'on a fait. Et donc, je disais que la corruption aujourd'hui, elle est probablement plus grave que pendant la transition, que pendant la Deuxième République.
Pourquoi d'après vous?
Parce que justement, tous les services s'émollaient aujourd'hui. Aller dans les services publics, quel est ce papier, quel est ce service qui ne se fait pas payer? Lorsqu'un paiement est effectué au niveau, si vous voulez, des services de l'État, c'est 20%, 30%, 40% de la succession.
Mais il y a quand même des entrepreneurs étrangers qui sont en prison pour malversation financière.
C'est bien bon de le dire. Je ne connais pas le détail de leur dossier, mais je salue, si vous voulez, la lutte contre la corruption. Je connais bien le ministre de la Justice actuel. Mais j'espère que la justice sera faite. Donc je pense que nous avons un pouvoir qui, pendant 2 ans, a démontré ses limites. Il faut l'avouer. Il y a des raisons, il y a des prétextes même. Mais je pense que ce que la population attendait du nouveau pouvoir issu des urnes, des personnalités qui, si vous voulez, doivent rendre compte de nous, ce n'est pas ce que l'on vit. La situation est plus que jamais désastreuse et je crois que le pouvoir a l'obligation de nous écouter et de nous suivre. Nous qui jouons le rôle d'observateur. Sinon, nous sommes en train d'aller tout droit vers la ruine.
Mais quelle est l'analyse que vous faites 2 ans après les élections, notamment qui concerne le gouvernement, qui concerne le Parlement? Certains disent que l'Assemblée nationale fonctionne bien et sur la magistrature.
Je pense que vous posez des questions, vous ne recevez pas de réponse.
Donc,
ce que j'étais en train de dire, c'est exactement, si vous voulez, ce que fait en particulier le gouvernement. J'ai eu à faire une analyse exhaustive, quasi exhaustive, les 2 août, c'était le 10e anniversaire de mon parti. Par exemple, pour l'Assemblée nationale et le Sénat, ils ont abattu un travail législatif de titans, de très bonne qualité, mais c'est avec beaucoup de limites à la rigueur du pitoyable. Même lorsque l'on convoque des ministres et des ADG et que des fautes soient établies, la majorité négativement solidaire le sauve. Nous n'avons pas une Assemblée nationale et un Sénat qui vont jusqu'au bout de la logique du contrôle et qui sanctionnent. Avez-vous déjà vu, vous, un ministre, un ADG, un PDG, je ne sais pas moi, un PCA ou quiconque, répondre vraiment de ses actes?
Mais Dieu, c'est la majorité, pas. C'est la loi, c'est la démocratie, hein.
Ça, c'est ce qu'il dit. Sous d'autres cieux, ça ne s'est fait. C'est pas justement ça la démocratie.
C'est ce qu'il dit, hein.
Non, la majorité, lorsqu'elle dessert un pays, on serait dans un autre pays où on a des moyens financiers suffisants, on l'aurait appelé à des élections, si vous voulez, anticipées. Parce que ça fait la honte. On ne peut pas aller demander les voix à la population. Vous êtes élu pour ne pas, si vous voulez, suivre l'intérêt général. Parfois, au coût de la corruption. Vous savez quand même, les députés et les sénateurs, pour faire passer les budgets ou telle autre décision, certains se font monnayer, même de la majorité. Avez-vous déjà vu cela sous les cieux? Donc, je pense que un peu de tolérance. En parlant du gouvernement, j'ai évoqué le fait que la situation économique et sociale est catastrophique, les budgets est insuffisant, nous n'avons pas de perspectives positives. Je viens de critiquer le Parlement en reconnaissant ce qui va, ce qui ne va pas. Vous voyez-moi, les institutions judiciaires, nous sommes à une époque où la justice est vendue. Et toutes ces choses-là, en tout cas, le peuple n'est pas allé aux élections pour ça.
Mais monsieur le maître Azarias Kobero, à l'Assemblée extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, c'est clôturé jeudi dernier à Kinshasa, et le ministre de la Justice a dit que tous les dossiers disciplinaires en suspens dans les chambres disciplinaires seront traités lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous pensez que c'est quand même un début
de remède? Absolument. Je ne dis pas que tout est négatif. Même au sein du gouvernement, il y a des ministres qui travaillent correctement. Au niveau de l'Assemblée, je viens de vous dire ce qui s'est fait, et du Sénat. Au niveau de la justice, on sent quelque chose poindre à l'horizon. Mais mon problème ici est de soulever des interrogations. Nous sommes, écoutez, l'un des pays les plus riches au monde, du moins naturellement. Mais nous sommes en même temps l'un des peuples les plus pauvres au monde. Cette inadéquation-là, ce paradoxe est lié à quoi? À la mauvaise gestion. C'est le problème de l'homme, c'est le problème du leader, c'est le problème de la sanction.
Et qu'est-ce que vous proposez pour sortir justement de toutes ces
difficultés? On ne va pas inventer la roue ou la houe ou tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il nous faut des leaders qui, avec une bonne vision, savent prendre des bonnes décisions au bon moment, y compris des décisions de sanction. La sanction a disparu dans ce pays. Lorsqu'un fonctionnaire, lorsqu'un cadre d'entreprise, lorsqu'un ministre sait qu'il ne sera jamais sanctionné, écoutez, il va faire tout ce qu'il va faire. Mais l'autre raison, c'est que les chefs doivent cesser de partager avec les subalternes. Ils perdent l'autorité morale. Dès lors qu'ils partagent les commissions, les corruptions et d'autres, l'autorité disparaît. Donc, je pense que
on ne réglera pas tous les problèmes à la fois, mais je suis en train de soulever d'abord des problèmes d'éthique. La gouvernance, c'est une éthique. Le pays, dans 3 ans qui restent pour les élections, dans un plan quinquennal, nous pouvons nous relever. Je sais qu'il y a une crise économique et financière qui frappe le monde.
Exactement.
La situation,
mais ça t'engage à ce que 300 000 emplois sont menacés. La migraine est constante. C'est vraiment la bonne gouvernance que vous proposez comme solution.
Voici, les pays qui souffrent aussi de ce genre de problèmes dans le monde aujourd'hui recourent à leurs réserves. C'est autant de centaines de milliards. Nous, nous n'en avons pas. La réalité, nous sommes en déficit.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faut faire, justement, c'est de gérer correctement. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple.
Rapidement, résumez-vous parce qu'on n'a plus que 4 minutes.
Bon. Je ne vais pas dans les exemples, je reste dans les principes. Je pense qu'il y a une éthique qui doit caractériser la gestion. La présidence de la République, le gouvernement, les institutions parlementaires, judiciaires, l'armée, la police, les gouverneurs des provinces, tous ces hommes doivent se sentir des répondants, mais ne pas raisonner en disant « en 2011, j'userai de pause, je vais corrompre » pour gagner les élections.
Merci. Merci beaucoup, Maître Azarias. Robert, nous recevons dans ce studio Jean-Claude Ntumba Kamanda. Bonsoir.
Bonsoir, Claude.
Que disent nos auditeurs ce soir?
Oui, il y a héritier de Goma au Nord Kivu. Que ressent Maître Azarias Robert au moment où c'est un général issu du RCD qui déstabilise le pays? John Fouca, depuis la ville de Bandundu, demande à Maître Rouberoy s'il a déjà demandé à Laurent Kunda de déposer les armes, ne fût-ce que pour épargner la vie des populations civiles. Dogou de Mahagui, en province orientale, voudrait entendre la lecture de Maître Azarias Rouberoy, car à son avis, la situation qui prévaut à l'est du pays est due au manque de volonté des autorités d'une part et de la communauté internationale de l'autre. Enfin, qu'est-ce que Maître Rouberoy peut conseiller au gouvernement congolais qui ne veut pas se soustraire du programme Amani pour faire la paix avec le CNDP dans l'intérêt supérieur du Grand Kivu? C'est une question qui nous vient de Théo Mbongo.
On va peut-être passer, Jean-Claude, à la question qui demande... Il y a Héritier de Goma au Nord Kivu qui dit qu'est-ce que vous ressentez du moment où un général issu du RCD déstabilise le pays. Et puis, il y a aussi une question, si vous avez déjà demandé à Laurent Kunda de cesser la guerre.
Écoutez, pour le moment, je ne suis pas chef de Laurent Kunda pour l'instruire de cesser la guerre.
Vous avez travaillé
ensemble. Mon appel, que j'ai travaillé ensemble, ma responsabilité n'est pas rétroactive dans ces conditions-ci. Mon appel s'adresse à tous les belligérants. J'insiste, nous avons 2 ans après les élections. Le monde est entré en crise et en récession pour la plupart des États aujourd'hui. Nous pouvons capitaliser nos ressources, nos énergies et construire autour d'un programme unique. La réconciliation a été un échec jusque-là, l'unité nationale a été un échec, la gouvernance a été un échec. Et si nous pouvons, si vous voulez, fédérer toutes les bonnes intentions et agir dans le sens de satisfaire l'intérêt général, je pense que la guerre peut passer pratiquement dans le chapitre du passé.
Maître Azarias, on pouvait vous demander en 30 secondes, quelle solution proposez-vous pour mettre fin à la crise à l'est du pays, au nord et au sud?
Vous auriez dû poser la question depuis longtemps. La solution réside dans le dialogue. J'encourage absolument ce qui s'est fait. Je pense que nous avons des anciens présidents de grands gabarits comme Obasanjo et si vous voulez, Mkapa. L'esprit que je vois dans la région aujourd'hui, c'est l'esprit de coopérer et de s'entendre au niveau du pays, des pays voisins. Je pense que ce même esprit doit venir au sein du pays. Mettons l'intérêt général, mettons de côté ce qui nous divise, mettons ce qui nous unit au milieu et travaillons sur le dialogue en sécurisant les uns et les autres. C'est alors que le pays va marcher.
Donc vous êtes optimiste, hein?
Pour l'année 2009, je suis vraiment optimiste. Je pense qu'il faut utiliser toutes les forces et toutes les énergies pour que
les affres de la guerre que nous avons connues depuis que jamais se vivre dans ce pays.
J'espère que c'est ça aussi le souhait de bonne année pour les auditeurs de Radio Okapi. C'est par ici que nous terminons cette émission. Merci à vous, Maître Azarias Koubéro, d'avoir répondu à cette invitation. Merci aussi à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui vous a préparé cette émission. William Lungamba était à la mise en onde. Merci à toute cette équipe et au revoir.
Okapi, Okapi.